campus.
Welcome to Radio Campus.
Radio Campus Orleans 88.3 FM.
Radio Campus Orléans 88.3 FM.
www.orleans.radiocampus.org.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Orléans pour le programme quotidien Écoute ta fac. Comme chaque jour, on commencera par le Flash Actu, un petit tour de la presse internationale, nationale et locale avec Rodrigue, puis on enchaînera avec l'interview de Mégane Froissart, de la Fracama et d'Élise Turba du service culture de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui organise en ce moment le festival Le Grand Unisson à Saint-Jean-de-la-Ruelle. En deuxième partie, on vous proposera d'écouter le reportage de Rodrigue qui s'est rendu au labo la semaine dernière. Il nous parlera de la gestion du stress. Et puis, pour ponctuer cette émission, des musiques du programme Dopopop qui aura lieu, festival qui aura lieu au mois de septembre. Bonne écoute sur Radio Campus. On écoute tout de suite Quartier Sexe de Madray.
Thank you.
C'était Madrey, Quartier Sec sur Radio Campus Orléans. Maintenant, on va passer tout de suite au Flash Actu. La première actualité du jour, c'est avec toi, Faustine.
Nous avons aujourd'hui l'actualité, et bien d'hier finalement, le lundi 12 juin a sonné le décès de l'ancien président du Conseil italien à trois reprises, qui était Silvio Berlusconi, qui est décédé à l'âge de 86 ans d'une suite de d'une leucémie, qu'il avait déjà été soigné à plusieurs reprises. À sa suite, on a Rome qui a déclaré une journée de deuil national pour demain, mercredi 14 juin. Donc, un petit peu qui est Silvio Berlusconi pour vous résumer, c'est qu'en plus d'avoir pu être président du Conseil, il a aussi été un homme d'affaires et magnat des médias au cœur de nombreuses controverses, entre autres sur une relation floue avec la mafia italienne.
Maintenant, on passe à Rodrigue et on part dans les airs, notamment par rapport aux armées.
Et oui, Air Defender, le plus important exercice aérien jamais organisé par l'OTAN, a démarré ce lundi. L'exercice va se dérouler jusqu'au 23 juin et réunira près de 250 avions militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. Jusqu'à 10 000 personnes participeront à ces exercices destinés à renforcer l'interopérationnabilité et la protection des drones, des missiles de croisière en cas d'attaque contre des villes, aéroports ou ports situés sur le territoire de l'OTAN. L'exercice comprendra une formation opérationnelle et tactique, principalement en Allemagne, mais aussi en République tchèque, en Estonie et en Lettonie. L'actualité internationale qu'on poursuit avec toi, Lucas, aux USA.
En effet, aux USA, les Américains veulent réintégrer l'UNESCO. Loin d'un acte de charité, le souhait de Washington de réintégrer l'UNESCO vise surtout à contrer le soft power chinois et à peser sur les discussions autour de l'intelligence artificielle. Les relations entre les États-Unis et l'UNESCO ont toujours été compliquées. Depuis 40 ans, ils intègrent ou quittent l'organisation au gré des humeurs politiques, des présidents, positions anti-israéliennes parfois. Donald Trump avait claqué la porte en 2017 au motif que l'UNESCO défendait des positions anti-israéliennes, justement, et les États-Unis veulent désormais revenir. Je souhaite vous informer au nom du département d'État que les États-Unis ont l'honneur de proposer un plan pour le retour dans l'UNESCO, a écrit Richard Verma, un adjoint du secrétaire d'État, dans un courrier à Audrey Azoulay, directrice générale de l'organisation internationale UNESCO. Maintenant, on passe à l'international avec Rodrigue.
Enfin, plutôt, on retourne sur le territoire français et notamment avec l'histoire des menhirs de Karnak. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce sont des mégalithes qui ont été détruits dans le Morbihan au profit d'une enseigne de bricolage que vous connaissez bien. Monsieur Bricolage, le maire s'est retrouvé au cœur d'une polémique particulièrement violente. À la place, une grande surface donc, de bricolage. Il ne s'agit pas de menhirs de 3 à 4 mètres de haut alignés dans un champ. Karnak représente un lieu archéologique et patrimonial. Dans les faits, selon le document de l'Institut de recherche archéologique de l'INRAP, il s'agit d'un ensemble de 39 pierres, dont 4 roches principales d'une hauteur d'environ de 50 cm. Mais celles-ci ont servi de base à la création d'un muret. Selon la DRAC de Bretagne, la Direction des Affaires Culturelles, cette file de roches se révélait par un caractère un peu majeur.
Maintenant, on va poursuivre avec les actualités médias, notamment le Sénat qui étudie la création d'une holding regroupant les médias de l'audiovisuel public. Cette holding, nommée France Média, serait composée de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. La ministre de la Culture, Rima Mouldak, n'y est pas favorable. L'idée était déjà dans les tiroirs en 2019, alors que Franck Riester était ministre de la Culture, mais elle avait été abandonnée durant la crise sanitaire. Cette holding nommée France Média serait composée de 4 filiales, France Télévisions, Radio France, France Média, Monde, qui comprend RFI et France 24, et l'INA, comme je disais. Ce dernier passerait du statut d'établissement public à celui de société. Par contre, d'autres médias comme Arte et TV5 Monde resteraient à part puisqu'ils sont régis par des traités internationaux et non pas nationaux, contrairement à l'audiovisuel public. Maintenant, on va passer aux informations locales avec Rodrigue qui va nous parler des assistants de vie scolaire.
Les syndicats qui appellent au rassemblement pour la cause de l'AESH, les invisibles de l'éducation nationale, parle-t-il. L'intersyndicale appelle tous les personnels de l'éducatif à se rassembler aujourd'hui à midi pour protester contre les conditions de travail et la rémunération des accompagnants aux élèves en situation de handicap, les AESH, du coup. Aujourd'hui, les syndicats appellent donc à un mouvement national en leur faveur. À Orléans, cela prendra la forme d'un rassemblement devant la direction des services de l'éducation nationale du Loiret, rue Eugène Vignat à midi. Les syndicats veulent obtenir plus de droits pour un métier ingrat et pénible, selon les termes de Sylvie Lesnay, co-secrétaire départementale de la SNES-FSU 45. Pour la professeure de lettres modernes, il n'y a pas de volonté politique de créer un statut. Elle dénonce le manque de considération donnée à ce métier, pourtant essentiel à la vie d'une classe. Ce sont les invisibles, déplore-t-elle.
On poursuit tout de suite avec la santé, notamment avec le pôle de santé Aurélians qui a renforcé la sécurité après des agressions qui ont eu dans un autre centre hospitalier à Reims il y a quelques semaines. Donc, ce centre hospitalier déplore des violences contre son personnel. Le dispositif a donc été musclé à Saran. Des solutions techniques et des moyens ont également été ajoutés par rapport à ce qui était déjà existant. Donc, désormais, il y a l'installation de 81 nouvelles caméras supplémentaires, des rondes aléatoires en plus le matin et en soirée par les agents de sécurité. Et les appels aux urgences sont enregistrés et des boutons d'alerte ont été déployés. Maintenant, on poursuit l'actualité locale avec la grève qui a pris fin à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, Faustine.
En effet, la CGT a signé le lundi 12 juin en soirée un protocole de reprise du travail sans avoir obtenu pour autant les augmentations demandées. On a vu l'énergie des premiers jours qui étaient là depuis le 23 mai en mobilisation qui n'était finalement plus d'actualité. Ils étaient en effet moins d'une trentaine contre 150 au tout début de la grève. Le décès subi et inattendu d'une jeune collègue à son domicile a contribué à diminuer l'engagement, selon le représentant de la CGT. Et on va continuer avec toi, Lucas, sur l'actualité locale.
Oui, juste brièvement, à Cléry-Saint-André, comme vous le savez, c'était samedi soir dernier, 8 personnes ont été fauchées pendant un mariage aux abords de l'église et une cellule d'urgence médico-psychologique a été lancée, sachant que 75 personnes sont impliquées dans cette affaire qui a eu lieu aux abords de la salle communale de Cléry-Saint-André dans le Loiret. Maintenant, on va poursuivre avec l'interview d'Élise Turba et du Grand Unisson de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Mégane Froissart de la Fracama. On va parler des VHSS en milieu festif. Bonne écoute.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Bonjour Mégane Froissart et Élise Turba. Vous êtes en direct de Radio Campus Orléans pour Écoute ta fac. On va parler effectivement de violence et de harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif. Élise Turba, vous organisez le festival Le Grand Unisson à Saint-Jean-de-la-Ruelle et Mégane Froissart, vous êtes effectivement à la Fracama de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, on va commencer avec le vif du sujet. On pourrait d'abord commencer par présenter vos postes et vos rôles. Allez-y, Élise.
Alors, je suis directrice de la salle L'Unisson à Saint-Jean-de-la-Ruelle et du festival Le Grand Unisson à Saint-Jean-de-la-Ruelle également.
Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Mégane Froissart de la Fracama, donc Fédération des musiques actuelles et Pôle musique actuelle en Centre-Val-de-Loire. Et je suis donc chargée de communication et de relations publiques.
Merci beaucoup. Une petite question, effectivement, peut-être, Lucie, par rapport à Élise Turba et à Mégane Froissart.
Oui, vous êtes aujourd'hui venue nous parler de VSS ou de VHSS. Je ne savais pas avant de préparer l'émission à quoi est-ce que cet acronyme correspondait. Est-ce que pour les personnes qui seraient dans mon cas, vous pourriez expliquer à quoi ça correspond ? Est-ce qu'il y a par exemple plusieurs types de VHSS ou VSS ?
Alors l'acronyme, donc ça veut dire violence et harcèlement sexiste et sexuel. Dans le milieu, nous, on essaye un maximum de combattre ces violences qui existent depuis toujours et qui souvent sont mises de côté. Et c'est important d'avoir ces mots bien précis pour qualifier ces agissements. Voilà, Élise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Là, on parle plus spécifiquement du milieu festif. C'est vrai que c'est un facteur aggravant, en fait, des VHSS, de par les consommations d'alcool ou autres consommations qui vont enlever les barrières d'un certain nombre de personnes, que ce soit des barrières d'attention pour certains ou certaines, et de faire craquer la norme ou la bienséance ou un comportement normal pour les agresseurs. Donc on est particulièrement vigilant et vigilante sur le milieu festif, mais les VHSS existent dans tous les secteurs, que ce soit au travail, dans la rue, vraiment partout. Donc il faut vraiment y prendre garde.
On parle de VSS à partir de quand ? Il y a plusieurs types de VSS, physique, morale. Est-ce que vous pourrez développer un petit peu ça, s'il vous plaît ?
J'ai envie de dire, dès que quelque chose n'est pas consenti, on va sur une violence donc c'est ça qui est intéressant avec le sigle de VHSS, c'est que quand on parle uniquement de violence, l'imaginaire va être restreint. Quand on rajoute le terme harcèlement, on voit que le spectre est nettement plus large, et ce qui permet aussi d'avoir un outil juridique pour tous les comportements qui ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que quelqu'un qui va insulter une personne dans la rue, ou qui va avoir des propos à l'encontre d'une personne, des propos violents, ça fait partie du harcèlement, et c'est aussi à prendre en compte. Et il faut que les gens aux alentours soient aussi vigilants sur ces violences, même si la violence, elle n'est pas que tactile ou vraiment sexuelle, ou sur du viol, les violences, elles sont multiples, et le harcèlement en fait partie.
C'était important pour nous de le rappeler, parce qu'on sait qu'on a tendance à minimiser ce genre de comportement et à ne pas savoir exactement quelles sont les limites, et certains ont tendance à l'oublier. Faustine, tu as quelque chose à rajouter peut-être ?
Et tout à fait. J'avais une petite question. Est-ce que les VHSS sont plus courantes dans les milieux festifs ?
Alors, j'aurais pas de chiffres précis à donner, mais je pense que, comme le disait tout à l'heure Élise, c'est un terrain en fait où ça facilite ce type de comportement. Ça ne le justifie en aucun cas, évidemment. Mais en fait, on est sur un terrain festif où on excuse des comportements violents. On a tendance même à minimiser les comportements. On va dire, ah oui, lui, il est relou, lui, c'est un frotteur. Alors qu'en fait, ce ne sont pas des relous ou des frotteurs, ce sont des agresseurs. Et c'est bien pour cela qu'on utilise vraiment le terme de violence et harcèlement sexiste et sexuel, pour être très précis et pour arrêter de minimiser ces comportements qui ont lieu depuis toujours contre les femmes, notamment.
Et justement, comment est-ce qu'on peut réagir si on est victime ou témoin d'une VSS ? Est-ce que vous avez mis des trucs en place ?
Quand on est victime, c'est toujours très compliqué, parce que on a des le cerveau qui se met en mode survie, et on va avoir des états de sidération, on va être complètement bloqué en fonction de l'agression qu'il peut y avoir. Donc il faut surtout pas se dire qu'une personne qui subit des violences ou du harcèlement, c'est qu'elle n'a pas le courage d'y mettre fin. C'est pas ça du tout. Soyons clairs, ce n'est pas la victime qui doit porter l'action. Le problème, il vient de l'agresseur, il vient pas de la victime. Donc, c'est vraiment les témoins qui doivent réussir à aller vers la victime et à lui dire « Ah bah tiens, bonjour !» Enfin voilà, à casser la situation et pas à hésiter à aller chercher quelqu'un d'autre pour casser la situation. Ou sur les festivals, il y a aussi de plus en plus de brigades, on va dire, d'intervention qui permettent d'être présentes et d'intervenir sur ce genre de situation. Donc à identifier les gens qui peuvent être... support pour casser ces situations. Il ne faut pas essayer de rentrer, je pense, en confrontation avec un agresseur, parce qu'il faut se mettre en sécurité aussi. Hein. C'est comme dans les accidents de la route ou les accidents du travail. C'est d'abord, on se met en sécurité parce qu'on ne va pas créer du suraccident. Donc, voilà, on fait en sorte de trouver la meilleure solution. Et comme dans le métro, si on constate que quelqu'un touche une autre personne et est en démarche d'agression, pas hésiter à aller vers la personne agressée pour lui porter secours de façon un peu naturelle, comme si « Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé », enfin voilà, des choses, qui, même si ce n'est pas vrai, on s'en fiche de la situation, même si on ne connaît pas la personne, l'idée c'est de l'aider et de lui porter secours.
C'est pour ça, en milieu festif, mais même dans la vie de tous les jours, il faut savoir s'amuser, mais aussi rester vigilant et regarder un peu ce qui se passe autour pour être en capacité de réagir si jamais il se passe quelque chose. On en parlait avec...
Et ne pas fermer les yeux, surtout.
On en parlait avec Faustine l'autre jour. C'est effectivement, si on n'est pas en capacité de rentrer en confrontation avec quelqu'un, comment est-ce qu'on peut réagir et aider une victime?
Et il y a une méthode francophone qui s'est mise en place, c'est la méthode des 5D.
Je ne sais pas si vous connaissez.
Qui est une méthode pour agir, qui donne plutôt le choix pour pouvoir voir comment agir, parce qu'il faut toujours agir, même s'il faut évidemment se mettre d'abord en sécurité, mais on ne peut pas fermer les yeux sur un cas de VHSS.
Est-ce que peut-être on pourrait rapidement parler de cette méthode des 5D sans parler de la confrontation, mais peut-être des autres méthodes?
Moi j'ai pas tous les termes en tête, donc ça va être compliqué de les détailler si vous avez tout pas un support
rapidement sous le nez. On peut essayer de s'en rappeler ensemble. En fait, les 5D, c'est 5 verbes qui commencent par D.
Donc, t'écoute.
Déjà, on a distraire. Donc, c'est exactement ce que tu as décrit tout à l'heure, Élise. C'est intervenir dans la situation en disant bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps. Trébucher en renversant du café, juste pour interrompre la situation, en fait. Donc, ça, c'est distraire. Ensuite, on a dialoguer. C'est-à-dire aller voir la victime pour parler avec elle, parce que c'est important de lui rappeler qu'elle est victime, justement parce qu'on parlait justement de l'état de choc de tout à l'heure. Et l'état de choc, un des premiers réflexes qui peut arriver, c'est de se considérer comme non-victime.
Et la minimisation, en fait.
Exactement.
Hein. On est tellement habitué à dire « non, mais c'est pas grave, c'est normal ».
Oui, oui. Toujours. Donc on a ça, on a documenté aussi. Documenter, c'est intéressant justement dans les milieux festifs quand on doit se laisser en sécurité. C'est-à-dire on peut sortir le téléphone, prendre en photo ou filmer pour prouver qu'il y a une agression et ensuite donner la preuve à la victime qui en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on ne force pas, on ne diffuse évidemment pas sur les réseaux. Si la victime veut qu'on supprime, on supprime. C'est au choix de la victime ensuite, parce que... Alors, on n'a déjà pas respecté sa volonté, ça serait bien qu'on la respecte ensuite à la fin.
Tout à fait, oui.
Donc documenter, mais ça reste des bonnes preuves, notamment pour porter plainte ou déposer une main courante. On a dirigé, c'est-à-dire voir la situation et tout simplement intervenir si on est en capacité d'intervenir. Dire à l'agresseur, tu arrêtes, elle a dit non, ou il a dit non, ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Et en fait, diriger la situation, donc intervenir directement. Et enfin, le dernier dé, qui est délégué, dont on parlait aussi tout à l'heure, qui est d'aller voir quelqu'un d'autre et dire écoute, viens intervenir avec moi, parce que moi je suis pas en capacité d'intervenir seule, ou alors même pour être en effectif plus nombreux, ça intervient. Et déléguer, c'est aussi appeler la police, appeler les pompiers, etc. Donc voici la méthode des 5D.
Ben merci Faustine pour ce petit rappel.
Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que les violences sexistes et sexuelles, évidemment, c'est pas tourné que vers les femmes.
Exactement.
Et que donc les hommes peuvent en être victimes. Toutes les personnes trans, non-binaires, quelle que soit l'orientation sexuelle, enfin voilà, toutes les personnes non-cis peuvent aussi en être victimes. Et enfin voilà, globalement, on va dire toutes les personnes identifiées comme minorités, même si enfin voilà, arrive un moment où on n'est pas. On va falloir arrêter de se dire que les personnes qui ne sont pas des hommes cis sont des minorités. Voilà, toute personne qui ne répond pas à une norme pour certaines, enfin voilà, dans l'imaginaire des agresseurs, peut être victime de ces VHSS. Et donc la vigilance, elle n'est pas tournée que vers les femmes, elle est vraiment tournée vers les potentiels agresseurs.
Exactement, quoi. Et puis ces violences sont banalisées au point aussi on ne les regarde pas, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure aussi.
Et Élise, concrètement justement, qu'est-ce qui va être mis en place au Grand Unisson pour lutter contre les VHSS?
Alors, ou accompagner les victimes, ouais, d'ailleurs.
Alors nous, on est sur un festival quand même principalement familial, où la moyenne d'âge va, on va dire, de 5 ans à 80 ans peut-être. Donc on est un peu moins confronté à ce genre de comportement que des lieux, que d'autres festivals ou milieux, en intérieur, de concerts en intérieur. Cependant, on a une charte à destination des associations, des artistes et des exposants divers, dans laquelle on rappelle que tous les comportements sexistes, racistes, homophobes sont bannis. Et il y a un petit paragraphe aussi qui indique que si une personne est victime, ce n'est pas à elle de supporter seule cela. Et donc mon numéro de téléphone est mentionné pour que la personne... moi, je suis sur site aussi, hein, donc voilà. L'idée, c'est de venir me trouver pour qu'on voit ensemble ce qui peut se faire. On a sur le site des agents de sécurité qui vont être sensibilisés à ça pour qu'ils soient vigilants. On a toute l'équipe de techniciens, techniciennes qui est sensibilisée aussi pour être vigilante. Donc on est vraiment dans cette démarche, sans pour autant, pour l'instant, avoir ressenti la nécessité d'avoir des personnes en fixe à un point qui serait vers qui on se tournerait. On est sur un festival à taille humaine vraiment, et normalement on est suffisamment présent et présente pour réussir à gérer ça.
Et pour une petite question, quand courent les agresseurs ou
Alors, Mégane, je ne sais pas si tu as des choses précises, mais ça va être amende et prison, hein, clairement. Clairement, on est sur du lourd en fonction de ce qui se passe, et c'est entièrement normal.
Et au sein du festival, dans l'immédiat, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une agression qui se passe?
Ça dépend de l'agression. Hein. Okay. Clairement, on a la sécurité qui va aller voir l'agresseur. On a la victime que moi je vais aller voir pour voir si elle veut porter plainte. On a de la police nationale qui est pas très loin. Donc après, en fonction de l'agression, en fonction de la volonté de la victime, etc., on avise.
Merci beaucoup Élise Turba et Mégane Froissart d'être venues à notre antenne pour parler de VHSS en milieu festif, c'était très intéressant. Merci aussi à Lucie et Faustine pour vos questions riches et variées. Maintenant, on va s'écouter une musique de la programmation
du futur au pop-up 2023 qui aura lieu au mois de septembre au Jardin de l'Évêché et au Campo Santo à Orléans. On va écouter tout de suite Adounia sur Radio Campus Orléans. De retour sur Radio Campus Orléans, c'était Adounia qui va nous faire le plaisir d'être présente au Pop-Up, le festival électro et pop d'Orléans qui aura lieu mi-septembre, le 15 et 16 septembre. Maintenant, je suis avec Rodrigue. Il va nous parler d'un reportage qu'il a réalisé la semaine dernière au Labo à Orléans. C'était sur la gestion du stress, en effet, Rodrigue.
Et oui, tout à fait, Lucas. La semaine dernière, nous étions à une conférence organisée au Labo concernant la gestion du stress, comment mieux gérer son stress. Pour cela, nous avons interviewé les trois intervenants et notamment le premier, Armand Ardouin, journaliste, entrepreneur et écrivain. On vous laisse écouter ce qu'il avait à nous dire sur comment gérer son stress.
Alors, je m'appelle Arnaud Ardouin, je suis journaliste et entrepreneur. J'ai une double casquette, et j'en ai même une troisième. Je suis écrivain, qui est mon jardin secret, mais qui est un jardin public. Journaliste depuis 25 ans, à la fois sur le terrain comme reporter à France 2, à M6, à Canal+. Et depuis quelques années maintenant, presque 10 ans, j'accompagne, je forme à la fois des étudiants en école de journalisme, des étudiants en école de communication, mais aussi des décideurs, des chefs d'entreprise, des ONG. Et j'essaie modestement de les aguerrir à l'éloquence et à la prise de parole, qui est un outil aujourd'hui essentiel, qui l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, lorsqu'il faut s'exprimer via son téléphone pour faire une petite vidéo, lorsqu'il faut prendre la parole pour une réunion stratégique, lorsqu'il faut s'exprimer face à ses équipes et qu'on est manager, la prise de parole, elle doit être impactante et elle nécessite un certain nombre d'outils, de méthodologies. Et évidemment, vous voyez où je veux en venir, la prise de parole n'est rien sans la gestion du stress en amont. Et vous commencez à mieux comprendre la stratégie de notre structure qui s'appelle Cali, qui est de mêler deux choses qui en apparence n'ont rien à voir entre elles et qui pourtant sont intimement liées. Si je veux être capable de m'exprimer d'une manière impactante, si je veux toucher un public, quel qu'il soit, pas uniquement télévisuel d'ailleurs, un public, mes équipes, il faut que moi, évidemment, je sois centré, que je sois au clair avec moi-même et que je sois en pleine possession de mes moyens. C'est comme vous. Pour que vous puissiez me sortir les vers du nez, il faut que vous soyez bien. Il faut que votre question soit bien posée. Et c'est exactement la même mécanique. Et donc, c'est ce qu'on développe aujourd'hui avec des salariés ou des chefs d'entreprise qui, pour beaucoup, n'accordent pas assez de temps à ces sujets. Ils accordent du temps à la stratégie, ils accordent du temps au management éventuellement, aux aspects financiers, mais trop peu de temps aux enjeux, des soft skills, ce qu'on appelle les soft skills. Voilà.
Aux échanges oraux et justement, comment ça s'appelle ? À ce temps, parce que c'est aussi du temps. Parler, s'exprimer.
À la fois, ça nécessite de prendre du temps, évidemment, mais la prise de parole est souvent, pour beaucoup, une contrainte. Quand la prise de parole est vécue comme une contrainte, souvent, on n'est pas impactant, parce qu'on se dit, il faut que je le fasse, il faut que je m'exprime, qu'est-ce que c'est barbant. Et donc, de fait, on n'impacte pas. Et c'est important dans les entreprises qu'un manager puisse embarquer ses équipes, puisse leur donner envie, et ça ne passe pas par des mails, mais ça passe évidemment par la manière dont je vais m'exprimer. Ça passe aussi dans la manière dont je vais reconnaître un collaborateur, la manière dont je vais l'écouter, la manière dont je vais laisser des silences avec l'interlocuteur pour passer du temps avec lui, pour vraiment le prendre en compte. C'est ça que l'on fait dans notre structure et c'est ça qui m'anime.
Et justement, avec cette multiplication des outils informatiques qu'on a connus ces dernières années, est-ce que c'est en fait ça, c'est on n'a plus le temps, on prend plus le temps de poser des questions, de parler avec les gens, de les écouter?
Oui, effectivement, le numérique est en train évidemment de nous couper progressivement du lien réel, mais on peut prendre le problème dans tous les sens. ChatGPT, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn, ce sont des outils sublimes en soi, mais ils doivent être impérativement associés à l'humain. Il n'y a que l'hybridation qui a du sens. Ce ne sont que des outils, ce n'est pas une finalité. Instagram n'est pas une finalité. Twitter n'est pas une finalité. Twitter est un élément d'augmentation du savoir. Ce qui compte évidemment pour un entrepreneur, pour un journaliste, pour un père de famille, c'est aussi d'être dans l'échange, dans le verbal. C'est nécessaire, j'ai même presque envie de dire c'est vital.
D'accord. Du coup, l'idée, d'échanger et de comprendre, d'écouter.
L'enjeu, c'est de donner de la puissance, de l'assurance, de la confiance et que tous ces éléments-là se travaillent d'abord dans la gestion de son stress. Si je ne suis pas en capacité de gérer mes émotions et mon stress, je ne suis pas en capacité de projeter mes idées. Je ne suis pas en puissance. Et c'est tout l'enjeu de ce que Germain Simon évoquait sous l'angle du sport, mais moi sous l'angle de la télévision, puisque je présente des émissions de télé depuis un peu plus de 20 ans. Si je ne suis pas en capacité de pouvoir être dans l'écoute, dans le relâchement, dans la capacité de pouvoir rebondir, si je suis dans mon stress et dans mon angoisse, je suis incapable d'aller vers l'autre. Et donc je suis incapable dans mon métier d'aller chercher le meilleur de l'autre. C'est évidemment l'arroseur arrosé, puisque c'est moi qui me fais interviewer par quelqu'un. Mais vous avez cette problématique-là dans votre métier. Et tout être humain qui vit en entreprise ou qui vit en société est confronté à cette question. La grande difficulté aujourd'hui des salariés, c'est d'avoir l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne prend pas en compte leurs difficultés. Je pense que l'outil qu'on propose, alors ce n'est pas un outil qui est l'alpha et l'oméga, il y a plein d'autres outils, mais celui-ci est un élément clé du vivre ensemble, du travailler ensemble, de s'écouter, de grandir ensemble.
Et du coup, quels outils, quelles sont les choses qui reviennent souvent et que vous partagez lors de ces formations que vous organisez, de ces échanges pour aider les gens à améliorer leur prise de parole?
Alors en fait, il y a la prise de parole. Souvent, les gens entrent par la porte de « j'ai échoué lors d'une allocution, il y avait du monde, je ne me suis pas trouvé très bon ». Ça démarre souvent comme ça. Donc je vais aller faire une formation de prise de parole ou ce qu'on appelle dans le jargon le media training. Et en fait, on s'aperçoit assez vite que ces personnes qui ont des difficultés de prise de parole, c'est parce qu'en amont, elles n'ont pas clairement réfléchi aux éléments de langage qu'elles devaient porter. D'abord, donc, il faut créer la bonne méthodologie. Commençons par le début. Ce qui s'exprime clairement s'énonce clairement. Quand les choses ne sont pas claires dans sa tête, je ne vois pas comment potentiellement on peut les exprimer clairement à l'oral. Donc d'abord, on bâtit une méthodologie. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi le message que vous faites passer? Une fois qu'on a élaboré ce contenu, parce que c'est du contenu, là c'est de l'écrit, d'où mon métier d'écrivain qui m'aide, là ensuite on réfléchit à la manière de comment je vais le dire. Mais il ne faut pas inverser le processus. C'est pas l'oralité, c'est pas inné. Tout ce que vous voyez aujourd'hui à la télévision ou les chefs d'entreprise de haut niveau, en tout cas d'entreprises importantes qui s'expriment, tout ça a été préparé, écrit, répété, les éléments de langage sont ciselés et ils sont choisis en fonction du média à qui ils parlent. S'ils parlent à Libé, ils ne diront pas la même chose que s'ils parlent à l'opinion ou aux échos. Donc chaque élément de langage va venir se ranger dans une stratégie marketing. Tout ça doit être décrypté, expliqué. Puis enfin, arrive la partie la plus, j'allais dire, sympathique, qui est la posture, c'est mes mains, mon corps, mon regard, la façon dont je vais exprimer cela. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Avant, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail de méthodologie, d'écriture, de poser ces éléments de langage, parce que ces éléments de langage, en fait, ils vont incarner le squelette d'une entreprise. Il ne faut pas se rater. Il y a des enjeux stratégiques. Ce sont des prises de parole dites stratégiques. Donc, ça veut dire qu'il faut le préparer. L'écueil principal, pour terminer, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont des gens souvent très bien structurés mentalement prennent une feuille A4 et encore 12 écrivent une tartine qui ressemble à une rédaction qu'on faisait en quatrième. Ce qui fait que, un, ils n'arrivent pas du tout à lire ce qu'ils ont fait. Deux, rien ne sort dans ce qu'ils ont écrit. Et à la fin, cette feuille, ils ne s'en servent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé avec cette feuille? J'appelle ça un doudou. Moi, mes invités viennent toujours avec leur doudou. Donc, ils ont leur petit doudou à la main. Ils le posent. Ça les rassure beaucoup. Alors souvent, il y a des cerveaux qui ont besoin d'écrire pour ensuite répéter. Puis une fois qu'ils ont le doudou, il est là, il est au chaud, c'est un peu le doudou sur le lit. On fait sa nuit, puis on a son petit doudou. On ne le touche pas forcément. Et très souvent, on ne l'utilise pas. Ça, c'est la mauvaise méthode. La bonne méthode, c'est d'extraire ces éléments de langage, d'aller chercher des punchlines, parce qu'il y a aussi des éléments qui attirent l'oreille par des images, des métaphores. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on l'exprime. Dernier point. Ce qu'ils n'ont pas compris dans la prise de parole, et là nous sommes là pour les accompagner, c'est de leur expliquer que la prise de parole, c'est comme un match de tennis. Ça ne se joue pas lors du premier point. Ça se joue avant. Ça se joue à l'entraînement. Ça se joue dans sa préparation mentale, la gestion de son stress. Ce n'est pas le moment où vous arrivez sur le cours que vous vous dites « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est pareil pour une prise de parole. La prise de parole, on la prépare, on s'y prépare mentalement, puis on exécute ce qu'on a à faire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on... On travaille avec nos clients. C'est assez nos clients ou des étudiants, puisqu'on travaille aussi avec des écoles de management et de commerce.
Et ce doudou dont vous nous avez parlé. Est-ce que déjà il n'y a pas une chose de bien, c'est que les choses sont posées sur un écrit et que du coup après au moins on peut vite fait voir la structure quand même.
Ouais, c'est ce que je vous dis, mais quand c'est écrit encore 12 et que vous avez besoin à l'oral d'être impactant et de regarder votre interlocuteur, c'est comme si je passais mon temps à regarder la feuille pour vous parler. Et vous me poseriez quand même sérieusement une question sur ma capacité à vous convaincre. Alors donc je suis en train de vous dire, attendez, j'en suis où sur la feuille? Enfin, vous diriez, mais attendez, c'est pas sérieux. Alors que je suis censé quand même présenter l'oralité. Mais l'élément à ne pas négliger, c'est que la montée de stress, ce qu'évoquent Albin et Germain, qui sont leur domaine de prédilection, va générer beaucoup d'incertitudes. Cette incertitude va créer beaucoup d'erreurs. On va oublier des choses. Combien d'invités m'ont dit en sortant du plateau, alors qu'ils avaient travaillé des jours l'interview, pour certains c'est l'interview de leur vie, ils n'en ont pas dormi de la nuit, ils finissent l'interview, l'interview est terminée, on ne peut plus revenir dessus. Ils se lèvent, ils me saluent, ils me disent « Ah, j'ai oublié de le dire. Ah, c'était ça que je devais dire. » C'est vachement intéressant. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils ont peut-être fait la bonne méthode, mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est gérer ce stress, c'est gérer en amont. Voilà. Ils pensent que la parole n'est que de la parole. Non, la parole, elle est l'aboutissement d'une perception.
De retour sur Radio
Campus. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci, Rodrigue.
De retour sur Radio Campus Orléans. Nous sommes avec Rodrigue. On va poursuivre ton petit reportage au labo sur la gestion du stress.
Oui, merci Lucas de m'avoir coupé avant la fin de mon interview.
Là, il fallait que tu dises merci, c'était poli.
Ben, merci Lucas. Et oui, et on va poursuivre ce petit reportage avec Germain Simon, qui est un ancien joueur de tennis. Donc pour ceux à qui Roland-Garros risquerait de manquer, on peut écouter ce qu'il en pense et comment gérer son stress du coup.
Je suis Germain Simon, ancien joueur de tennis professionnel. J'ai une formation en préparation mentale et accompagnement de la performance des athlètes. Et aujourd'hui, je travaille avec les entreprises et on les accompagne à développer toute la partie soft skills, la formation soft skills, prise de parole en public, gestion du stress et voilà, accompagnement de la performance.
Et du coup, au niveau de cet événement, pourquoi vous êtes venu ici et quel lien ça fait avec...
Pourquoi on est venu ici? Déjà parce que moi j'ai étudié à Orléans pendant 3 années, j'ai fait partie de l'université de STAPS d'Orléans et c'était une opportunité aussi de... On a un ami commun qui travaille ici et c'était une occasion pour nous de présenter ce qu'on faisait à Orléans. Aujourd'hui on est une entreprise qui est sur Paris et on était content de pouvoir un peu diffuser ce qu'on propose à Paris, à Orléans tout simplement.
Et du coup au niveau de la conférence, comment ça va se passer un peu?
Ah ben ça, on peut pas en parler.
On peut pas avoir quelques pistes pour nos auditeurs qui vont nous écouter et du coup qui voudraient un petit retour?
Comment ça va se passer? Notre conférence, c'est une conférence, je peux vous dire, immersive. C'est-à-dire que le public est utilisé et partie prenante de l'aventure. C'est une stratégie qu'on a puisqu'on estime que dans les compétences dont on parle, gestion du stress, prise de parole en public, il est nécessaire de vivre l'expérience pour comprendre intérieurement ce qui se passe et vraiment acquérir la compétence. Voilà, si je peux teaser, c'est la chose que je peux dire.
Et ce choix de la gestion du stress et cette question, en quoi aujourd'hui elle est importante, en quoi aujourd'hui c'est important d'en parler et vous avez décidé de prendre cette thématique?
Alors, déjà parce que c'est mon expertise première dans le monde du sport, j'accompagnais des athlètes de haut niveau à découvrir ce qu'était le stress et comment on pouvait en faire une force. Et en fait, dans mon parcours de vie, à un moment, le monde de l'entreprise s'est présenté à moi. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'on retrouve les mêmes problématiques à partir du moment où il y a une quête de performance et même une quête humaine. Le stress va faire partie de l'aventure. Et ce que j'ai pu remarquer en tout cas, c'est que si dans le monde du sport on commençait, et on avait un peu de retard d'ailleurs en France, mais on commençait à être de plus en plus pointu sur ces sujets-là, dans l'univers de l'entreprise c'était beaucoup plus méconnu et finalement tout à chacun est un peu livré à lui-même face à ce stress, alors qu'en fait si on apprend à le connaître, à mieux le gérer, à mieux l'utiliser, il peut être une source d'une grande performance, il peut être un allié dans la vie de tous les jours, je dirais.
D'accord. Donc pour vous le stress c'est plus un allié qu'une alerte?
C'est les deux. Mais on peut en faire un allié, en fait. C'est une alerte et on peut en faire un allié, effectivement. Et je pense que c'est l'erreur qu'on a longtemps commis en pensant qu'il fallait absolument éviter le stress, alors qu'en fait, on peut l'utiliser à des fins positives.
Et si vous vouliez donner quelques conseils aux auditeurs, des guides?
Les conseils, le premier conseil que je leur donnerais, c'est apprenez à vous observer dans ces situations stressantes déjà. Observez ce qui se passe dans votre corps avant même de chercher une résolution intellectuelle, de percevoir ce qui se passe dans leur corps, de revenir à ce qui est maîtrisable en eux, et tout simplement aussi de surtout ne pas faire de ce stress, à l'inverse d'un allié, un ennemi en fait, et de ne surtout pas chercher à le fuir, au contraire. Plus on cherche à le fuir, plus il aura tendance à s'exprimer de manière intense et violente parfois. Voilà.
Merci beaucoup.
Bah, de rien, avec plaisir.
De retour sur Radio Campus Orléans, on va poursuivre avec le dernier témoignage du reportage de Rodrigue au labo sur la gestion du stress. On t'écoute, Rodrigue.
Et oui, un dernier témoignage qui durera 7 minutes et qui est donc dans cette continuité du sport, un peu plus sportif donc, qui se fait avec Albin Allemain, qui est docteur en anthropologie cognitive à l'Université d'Orléans. Et avec lui, du coup, on va essayer d'y voir plus clair par rapport aux deux témoignages qu'on a eus précédemment avec Germain Simon, ancien joueur de tennis, et Arnaud Ardouin, ancien journaliste, entrepreneur et écrivain.
On s'écoute ça sur Radio Campus.
Albin Hama, docteur en anthropologie cognitive, consultant aussi pour Cali. Peut-être que Germain en a parlé tout à l'heure. Un cabinet qui propose des formations soft skills. Docteur en anthropologie aussi à l'enseignant, enseignant à l'Université d'Orléans, de temps à autre, en STAPS. Qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui? C'est que moi, on va dire que je suis un peu le monsieur cerveau de la conférence, mais qui fait aussi le lien avec la gestion des émotions et aussi ce que les anglo-saxons appellent peak performance. Il faut savoir que quand il y a du challenge, quand il y a du défi, il se passe quelque chose, il y a de l'anxiété qui monte, on parle d'anxiété de performance, il y a aussi, on parle aussi de performance story, c'est-à-dire qu'on commence à s'imaginer des scénarios. Tout à l'heure, vous parliez de tips, il me semble, quelque chose qui m'est venu à l'esprit, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il faut savoir que 47% des heures éveillées sont passées à penser à ce qui ne se passe pas. Vous avez une idée de où est l'esprit quand il n'est pas là?
S'épuiser. Hein? À s'épuiser ailleurs.
Passé, futur, éventuellement dans le présent, en train de juger ce qui se passe ou en train de se juger. Il faut savoir aussi que ce que nous disent les neuroscientifiques, il y a entre 6200 et 60 000 pensées qui traversent notre esprit. La plupart de ces pensées sont des fake news qui viennent générer du stress. Bien souvent, il y a une confusion entre les pensées et la réalité. Il y a une espèce de confusion. Et l'idée, avec les outils de préparation mentale, c'est de justement repérer ces pensées.
Et cette confusion, enfin, toutes ces idées qu'on peut avoir, est-ce qu'elles ne nous permettent pas aussi de nous construire? Est-ce que tous ces imaginaires qu'on peut avoir entre passé où on réfléchit à ce qui pourrait arriver?
En fait, Rodrigue, ce qui se passe, c'est que souvent, on est plutôt en mode pilote automatique. Mm-hmm. On ne sait même pas qu'on est en train de penser. Et l'idée, c'est de se réveiller de ce cauchemar éveillé. Parce que ce que nous disent les chercheurs, c'est que quand l'esprit vagabonde, il y a 7 à 9 fois plus de chances que l'esprit se fixe sur un contenu négatif. Ce que j'ai pas bien fait, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Et quand bien même je suis plus ou moins présent à ce que je suis en train de faire, il y a une petite voix en arrière-plan, ce que certains l'appellent le coach négatif. Tu vas pas y arriver, c'est pas assez bien. Et en fait, l'idée, c'est de repérer la façon dont on se parle pour changer un petit peu le scénario.
Okay.
Autour de moi, il y a des tennismen. C'est Roland Garros en ce moment. Vous savez que les athlètes, après un match, ils reçoivent des milliers de messages de haine. Souvent, c'est des parieurs. Tu mérites d'avoir les jambes cassées, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous-mêmes, en situation de stress, on s'envoie aussi des messages un petit peu de ce type. On se les inflige. Donc l'idée, c'est aussi de prendre conscience de la façon dont on se parle et voir si on ne peut pas changer la voix du coach négatif par le coach compatissant. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dirait un bon ami dans cette même situation?
Et pour les étudiants, parce que vous avez dit comme quoi vous étiez universitaire, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous sentez pour eux au niveau du stress? Est-ce que vous étudiez aussi un peu ce stress-là?
On a fait une étude avec des collègues il y a 4 ou 5 ans. On a été surpris par le niveau du stress des étudiants en première année. Il y a une grosse difficulté justement en ce qui concerne la gestion des émotions. Gestion du stress, gestion des émotions. Bien souvent, ce qui se passe avec les émotions, c'est que on essaye de les mettre de côté, on essaye de les mettre sous le tapis quand, ce que disait Germain tout à l'heure, la meilleure façon, c'est de les accueillir. Je ne sais pas si les auditeurs, auditrices m'entendent bien, mais imaginez, essayez de ne pas penser à un ours polaire. Qu'est-ce qui se passe?
Du coup, on pense à un ours polaire.
Voilà, on voit, il nous fait presque du lap dance devant nous. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de le chasser. Les pensées, les sensations, les émotions, souvent, on a tendance à essayer de les mettre sous le tapis. Quand une des clés, c'est d'essayer de les observer, les accueillir, éventuellement les nommer.
C'est quand... pour ça que c'est important de nommer les choses de plus en plus aujourd'hui.
En fait, déjà, identifier l'émotion, la nommer, pas forcément à voix haute, mais à voix basse. On peut aussi la partager. En fait, c'est un moyen d'appuyer sur la pédale de frein du cerveau. Quand l'émotion commence à prendre le contrôle, le fait de nommer cette émotion, c'est comme si on diminuait son pouvoir sur nous. C'est très contre-intuitif.
Ok, eh ben, on en apprend plein de choses. Merci en tout cas pour tous ces petits tips.
Ces petits tips
pour nos étudiants.
Deux façons de réguler les émotions. Du haut vers le bas, en faisant ce travail d'identifier les émotions et les nommer, les accueillir. Une autre façon, c'est aussi de jouer par exemple sur la respiration. Quand l'expiration est plus longue que l'inspiration, on envoie un message fort à notre cerveau pour lui dire « Mec, tout va bien. »
Ok.
Vous voyez, trois grandes respirations, rien que ça. On prend, j'ai envie de dire, son bien-être en main.
Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour
avec plaisir.
Ces petits conseils et puis pour avoir prêt à nous répondre.
Merci beaucoup, Rodrigue.
De retour sur Radio Campus Orléans, c'était Albin Almain qui nous a parlé de la gestion du stress suite à la conférence qui a eu lieu la semaine dernière au labo. Rodrigue, notre journaliste, était sur place. Maintenant, il nous reste 2 minutes d'antenne. Je vais annoncer un événement qui a lieu à la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle jeudi à 18h30, une rencontre avec Tracy Dessa de l'espace Roll Tanguy. Notamment l'idée ça sera de parler de la place des femmes et des minorités dans la musique et la société qui motive largement la créativité de cet artiste, donc ça sera très intéressant. Maintenant on écoute Marianne qui va nous présenter le programme de la journée sur Radio Campus.
Le programme de la journée sur Radio Campus à 13h, retrouvez Novorama, c'est l'hebdo musical. À 15h, ce sera le Moulin à Parole où il y aura une restitution des ateliers de médias animés par Daniel Begdad. À 17h, retrouvez Turbulence. Ensuite, à 19h, ce sera À Bâton Rompu où on parlera de politique locale avec Assam Kerim. Enfin, de 20h à 22h, ce sera Ride On pour parler de reggae. Et de 22h à minuit, le catalogue électro.
Merci beaucoup Marianne pour cette super annonce. On va écouter juste quelques secondes de Indigenous Love de Us Kinging avant de passer à la suite du programme de la journée. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans.
Screaming chants for the dead, triple eyes painted on the forehead. I approach with the gifts and more.